Querelles intestines. Ce n'est que dans le sang qu'on lave un tel outrage. Corneille, Le Cid, acte 1, scène 4. C'était l'heure de l'entrée dans la cour de l'école, ce vendredi matin. Ce qu'on s'est bien amusé hier tout de même. Tu sais que Tigibus a dégueulé tout le long du mur des Menelots en s'en retournant ? Ah, Birrias aussi. Il a sûrement tout recraché ses patates et son pain. Pour quant aux sardines et au chocolat, on ne sait pas. C'est les cigares. Ou bien la goutte. Tout de même, quelle belle fête. Faudra tâcher de recommencer le mois prochain. Ainsi, dans le recoin du fond qu'abritait la grange du père Gugu, le braque, Grand Gibus, Tintin et Boulot continuaient à se congratuler et à se féliciter et se louer de la façon admirable dont ils avaient passé leur après-midi du jeudi. Ça avait été vraiment très bien, puisqu'en s'en retournant, ils étaient tous aux trois quarts saouls et qu'une bonne demi-douzaine s'était trouvée en proie à un chavirant mal au cœur qui les avait contraints à s'arrêter et s'asseoir n'importe où, sur un mur, sur une pierre, à terre le cou tendu, la langue pâteuse, l'estomac en révolution. On causait de ces joies perdurables et pures qui devaient hanter longtemps les mémoires vierges et sensibles, quand de grands cris de rage accompagnés de gifles sonores et suivis d'injures violentes attirèrent l'attention de tout le monde. On se précipita vers le coin d'où venait le bruit. Camus, de la main gauche, tenant bâcaillé par la tignasse, le calotait de l'autre puissamment, tout en lui hurlant aux oreilles qu'il n'était qu'un sale sournois et un foutu salaud, et lui en fichait le gars pour lui apprendre, disait-il, à ce cochon-là. Lui apprendre quoi ? Nul des grands ne savait encore. Le père Simon, arrivant en hâte, attiré par le bruit des gifles et les injures des deux belligérants, commença par les séparer de force et à les planter devant lui, un au bout de son bras droit, l'autre au bout de son bras gauche. Puis, pour calmer toute velléité de révolte, à leur flanquer équitablement et à chacun une retenue. Ensuite de quoi, assuré pour son compte, après ce coup de force d'avoir la paix, il voulut bien connaître les causes de cette subite et violente querelle. « Une retenue à Camus ?» pensait le braque. « Comme ça tombe bien. On a justement besoin de lui ce soir. Les Vellerons vont venir et ce ne sera pas de trop. » « J'ai toujours pensé, quant à moi, rappela Tintin, que ce sale bancal jouerait un vilain tour à Camus un jour ou l'autre. Mon vieux, au fond, c'est parce qu'il est jaloux de la Tavie et qu'elle se fout de sa fiole. Depuis longtemps déjà, il cherche à embêter Camus et à le faire punir. Je l'ai bien vu et la crique aussi. Il n'y avait pas besoin d'être sorcier pour le remarquer. Mais pourquoi se sont-ils donc attrapés comme ça ? » Un petit renseigna discrètement Lebrac et ses féaux. Tout était d'ailleurs d'avance convaincu que dans cette affaire, Camus avait raison. Il l'était d'autant plus que le lieutenant avait toute leur sympathie et qu'il était nécessaire à la bande ce soir-là. Aussi, spontanément, songèrent-ils à tenter avec ensemble une manifestation en sa faveur et à prouver par leur témoignage que, en l'occurrence, Bacaillé avait tous les torts, tandis que son rival était innocent comme le cabri qui vient de naître. Ainsi, le père Simon, forcé dans ses sentiments d'équité par cet assaut de témoignages et cette magnifique manifestation, se devrait, s'il ne voulait pas faire perdre toute confiance en lui à ses élèves et tuer dans l'œuf leur notion de la justice, d'acquitter Camus et de condamner le bancal. Ce qui s'était passé était bien simple. Camus, devant tous, le dit carrément, tout en omettant avec prudence certains détails préparatoires qui avaient peut-être leur importance. Étant au cabinet avec Bacaillé, celui-ci lui avait d'esque près traîtreusement pissé dessus, injure qu'il n'avait comme de juste pu tolérer. De la secrépage de toison et la série d'épithètes colorées qu'il avait envoyées avec une rafale de gifles à la face de son insulteur. La chose en réalité était un peu plus compliquée. Bacaillé et Camus, entrés dans le même cabinet pour y satisfaire le même besoin, avaient fait converger leurs jets vers l'orifice destiné à les recueillir. Une émulation naturelle avait jailli spontanément de cet acte simple devenu jeu. C'était Bacaillé qui avait affirmé sa supériorité. Il cherchait rogne, évidemment. « Je vais plus loin que toi, » avait-il fait remarquer. « Ce n'est pas vrai, » riposta Camus, fort de sa bonne foi et de l'expérience des faits. Et lors tous deux, haussés sur la pointe des pieds, bombant le ventre comme un baril, s'étaient mutuellement efforcés à se surpasser. Aucune preuve convaincante de la supériorité de l'un d'eux n'avait jailli avec les jets de cette rivalité. Bacaillé, qui voulait avoir sa querelle, trouva autre chose. « C'est la mienne qui est la plus grande, » affirma-t-il. « Dénef, » riposta Camus, « c'est la mienne. Menteur, mesurons. » Camus se prêta à l'examen. Et c'était au moment de la comparaison que Bacaillé, gardant en réserve une partie de ce qu'il aurait dû lâcher précédemment, compissa aigrement et traîtreusement la main et le pantalon de Camus sans défense. Une gifle bien appliquée avait suivi cette ouverture salée des hostilités, puis vinrent sans délai la bousculade, le crépage des tignasses, la chute des casquettes, le défoncement de la porte et le scandale de la cour. « Sale salaud, dégoûtant, fumier !» râlait Camus hors de lui. « Assassin !» ripostait Bacaillé. « Si vous ne vous taisez pas tous les deux, je vous colle à chacun 8 pages d'histoire à copier et à réciter, et 15 jours de retenue. Monsieur, c'est lui qui a commencé. Je lui faisais rien, moi. Je lui disais rien à ceux. Non, monsieur, c'est pas vrai. C'est lui qui m'a dit que j'étais un menteur. » Cela devenait épineux et délicat. « Il m'a pissé dessus, » reprenait Camus. « Je ne pouvais pourtant pas le laisser faire. » C'était le moment d'intervenir. Un « Oh !» général d'exclamation dégoûtée et d'unanime réprobation prouva aux joyeux grimpeurs et lieutenants que toute la troupe prenait son parti, condamnant le boiteux sournois, fielleux et rageur qui avait cherché à le faire punir. Camus, comprenant bien le sens de cette exclamation, s'en remettant à la haute justice du maître, influencé déjà par les témoignages spontanés des camarades, s'écria noblement. « Monsieur, je veux rien dire, moi, mais demandez-leur-y aux autres si c'est pas vrai que c'est lui qui a commencé, et que j'y avais rien fait, et que j'y avais pas dit de non. » Tour à tour, Tintin, la Crique, le Braque, les deux Gibus, confirmèrent les dires de Camus et n'eurent pas assez de termes énergiques congruents pour flétrir l'acte malpropre et de mauvaise camaraderie de Bacaillé. Pour se défendre, ce dernier les récusa, alléguant leur absence du lieu du conflit au moment où il éclatait. Il insista même sur leur éloignement et leur isolement suspect dans un coin retiré de la cour. « Demandez aux petits, alors, monsieur, » répliqua vertement Camus. « Demandez-leur-y, eux, ils étaient là, peut-être. » Les petits, individuellement interpellés, répondirent invariablement. « C'est comme dit Camus, que c'est vrai, Bacaillé y a dit des mentes. » « c'est pas vrai !» protesta l'accusé. « C'est pas vrai, et puisque c'est ça, je vais tout dire, non !» Le Braque fut énergique et prit les devants. Il se campa résolument devant lui, à la barbe du père Simon intrigué de ses petits mystères, et fixant Bacaillé de ses yeux de loup, il lui rugit à la face, le défiant de toute sa personne. « Dis-le donc un peu ce que tu as à dire, menteur, salaud, dégoûtant. Dis-le si tu n'es pas un lâche !»« Le Braque !» interrompit le maître. « Si vous ne modérez pas vos expressions, je vous punirai vous aussi. » « Mais monsieur, répliqua le chef, vous le voyez bien que c'est un menteur, qu'il le dit si on lui a jamais fait du mal. Il cherche encore quelque menterie qu'il pourrait inventer, cette sale cabla. Quand il ne fait pas le mal, il le pense. » De fait, Bacaillé, médusé par les regards, les gestes, la voix et toute l'attitude du général, restait là muet et confondu. Un court instant de réflexion lui permit de se rendre compte que ses aveux et dénonciations, même s'ils étaient pris au sérieux, ne pouvait en définitive que faire corser sa punition, et somme toute, il n'y tenait point. Il jugea donc bon de changer d'attitude. Portant les mains à ses yeux, il se mit à pleurnicher, à larmoyer, à sangloter, à parler en phrases entrecoupées, à se plaindre de ce que, parce qu'il était faible et infirme, les autres se moquaient de lui, lui cherchaient querelle, l'injurier, le pincer dans les coins et le bousculer à chaque entrée, à toutes les sorties. Par exemple, « Si c'est permis !» rugissait le Braque. « Autant dire qu'on est des sauvages, des assassins. Dis donc, mais dis-le où et quand qu'on t'a fait quelque chose de vexant? Quand c'est-il qu'on t'a empêché de jouer avec nous ?»« C'est bon, » conclut le père Simon, édifié et pressé par l'heure. « Je verrai ce que j'ai à faire. Bacaillé, en attendant, aura sa retenue. Quant à Camus, tout dépendra de la façon dont il se comportera pendant la classe aujourd'hui. D'ailleurs, 8 heures sonnent, mettez-vous en rang, vivement et en silence. » Et il frappa plusieurs fois de suite dans ses mains pour confirmer cet ordre verbal. « Sais-tu tes leçons ?» demanda Tintin à Camus. « Oui, oui, mais pas trop. Dis à la Crique de me souffler quand même, s'il le peut. »« Psieu !» fit d'une voix rogue Bacaillé. « Ils me disent des noms, les Gibus et la Crique. »« Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ils me disent vache espagnole, boxzizi, peigne. »« C'est pas vrai, monsieur. C'est pas vrai. C'est un menteur. On l'a à peine regardé, ce menteur-là. » Il faut croire que les regards étaient éloquents. « Allons, » fit le maître d'un ton sec, « en voilà assez. Le premier qui redira quelque chose et qui reviendra sur ce sujet me copiera 2 fois d'un bout à l'autre la liste des départements avec les préfectures et sous-préfectures. » Bakaye, étant englobé dans cette menace de punition qui ne se confondait pas avec la retenue, se résolut momentanément à se taire. Mais elle se jura bien, lorsqu'elle se présenterait, de ne pas perdre l'occasion de se venger. Tintin avait communiqué à la crique le vœu de Camus, lui soufflé, consigne presque inutile puisque la crique était très équitablement, comme on l'a vu déjà, le souffleur attitré de toute la classe. Camus, plus que jamais, pouvait compter sur lui. Le lieutenant et grimpeur, contrairement à l'habitude, y sauta en arithmétique. Il avait pris dans son livre quelques teintures de la matière de la leçon et répondait tant bien que mal, vigoureusement secondé par la crique, dont la mimique expressive corrigeait ses défaillances de mémoire. Mais Bacaillé veillait. « Monsieur, il y a la crique qui lui souffle. »« Moi ?» fit la crique indignée. « Je n'ai pas dit un mot. »« En effet, je n'ai rien entendu, » affirma le père Simon. « Et je ne suis pas sourd. »« Monsieur, c'est avec ses doigts qu'il lui souffle, » voulut expliquer Bacaillé. « Avec ses doigts ?» reprit le maître ahuri. « Bacaillé, » scanda-t-il magistralement. « Je crois que vous commencez à m'échauffer les oreilles. » Vous accusez à tort et à travers tous vos camarades quand personne ne vous demande rien. Je n'aime pas les dénonciateurs, moi. Il n'y a que quand je demande qui a fait une faute que le coupable doit me répondre et se dénoncer. Ou pas, compléta à voix basse Lebrac. Si je vous entends encore, et c'est mon dernier avertissement, je vous mets en retenue pour 8 jours. Bisque, bisque, enrage, rancuseur, sale cafard, marmottait à voix basse Tigibus en lui faisant les cornes. Traître, Judas, vendu, pincu. Bacaillé, pour qui décidément cela tournait mal, ravalant en silence sa rage, se mit à bouder la tête dans les mains. On le laissa ainsi et l'on poursuivit la leçon, tandis qu'il ruminait ce qu'il pourrait bien faire pour se venger de ses camarades qui, du coup, allaient fort probablement le mettre en quarantaine et le bannir de leur jeu. Il songea, et il imagina des vengeances folles, des pots d'eau jetés en pleine figure, des giclées d'encre sur les habits, des épingles plantées sur les bancs pour des petits empalages, des livres déchirés, des cahiers torchonnés. Mais peu à peu, la réflexion aidant, il abandonna chacun de ses projets, car il convenait d'agir avec prudence. Lebrac, Camus et les autres n'étant point des gaillards à se laisser faire sans frapper dur et cogner sec. Et il attendit les événements.